La pandémie a amené plusieurs employeurs à travailler, à revoir leurs relations avec leurs employés. La semaine de 4 jours, fermeture des commerces le dimanche, pénurie de main-d'œuvre, vision du travail différente là en termes de conciliation travail-famille. Il y a plein de défis pour mon prochain invité, qui est ministre du Travail, Jean Boulet. Bonjour, M. Boulet.
Bonjour, M. Latroit.
Vous en avez du pain sur la planche au cours des dernières semaines. Ça s'est accumulé sur votre bureau, hein?
Oui, tout à fait. Vous les avez bien identifiés, la pénurie de main-d'œuvre, notamment. Là, c'est un défi de collectivité qui est important pour ouais. Tout le monde.
Bon, mais je veux commencer avec un communiqué, en fait, qui a été émis par les éleveurs de porc du Québec là, au cours de la nuit. En fait, le communiqué a été rendu public à minuit, été diffusé sur les différents réseaux. Et ils vous demandent, eux, de régler rapidement ou d'envoyer, en fait, d'intervenir dans le conflit de travail à l'usine Dolimel de Vallée-Jonction. Pourquoi? Parce que c'est une usine où on abat des porcs. Et là, il y aurait jusqu'à 130 000 porcs qui pourraient être euthanasiés, un peu comme ce qu'on avait connu, la situation chez Exceldor avec le poulet, là. Alors, est-ce que vous allez intervenir dans ce dossier-là, M. Boulet?
Écoutez, M. Lacroix, c'est sûr que c'est pas moi qui peux régler. C'est deux parties privées qui négocient le renouvellement d'une convention collective. Moi, ce que j'ai fait à date, j'ai nommé un conciliateur d'expérience qui est connu par les parties, qui les a aidés à trouver une solution par elles-mêmes. Il a déposé une hypothèse de règlement. Est-ce que je vais intervenir? Oui, c'est certain que aujourd'hui, je vais avoir un état de situation, puis je vais voir ce qui est à ma disposition pour faciliter un règlement le plus rapidement possible. Il y a des répercussions, vous en parlez, un potentiel gaspillage alimentaire, on l'a vécu de façon assez dramatique.
Oui.
Chez Exceldor, en fait, oui, j'ai l'intention de certainement parler avec les parties, avoir un rapport d'étape de mon conciliateur, puis déterminer la meilleure façon d'aider les parties à trouver une solution rapidement. Là.
Parce que chez Exceldor, c'est un peu la même situation. C'est deux entreprises. En fait, c'est une entreprise privée avec son syndicat. Vous n'aviez pas de juridiction en tant que telle, mais vous étiez quand même intervenu. On dit que c'est votre intervention qui a permis de régler plus rapidement le dossier. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une situation semblable dans le cas de l'IMEL?
Mon rôle en est un, M. Lacroix, de facilitateur. Fait quand je peux intervenir, parler avec les parties, les aider à trouver un consensus qui peut être intéressant, puis mettre fin à ce conflit de travail-là, c'est sûr que je vais le faire. Puis là, j'ai laissé mon conciliateur travailler. Mon équipe de conciliation-médiation a été assez active dans ce dossier-là, mais là, il a l'air d'avoir une impasse. Les pourparlers sont interrompus. Puis ce qui est important dans un processus, vous le savez bien, M. Lacroix, de renouvellement de convention collective, faut toujours maintenir le dialogue. Et quand il y a plus de dialogue, c'est sûr qu'on peut pas trouver de règlement à l'amiable. Fait que, oui, je vais faire ce que je peux. Je vais intervenir dans les meilleurs délais possibles.
Bon. Il y a plein de dossiers desquels on veut parler. Commençons donc par la fermeture des commerces le dimanche. Et il y a des quincailliers qui ont dit, il y a un peu plus d'une semaine, c'est pas facile, puis nous autres, on aimerait ça, peut-être fermer le dimanche, si tout le monde pouvait embarquer là-dedans, puis fermer certains commerces le dimanche. Ça a lancé le débat sur l'ouverture des magasins de façon presque universelle là au Québec. Vous en êtes où là-dedans, M. Boulet? Est-ce qu'il va y avoir une réflexion sur la possibilité de revoir les heures d'ouverture des commerces, notamment des quincailleries?
Ben, écoutez, dans un premier temps, il faut dire qu'on est préoccupé par la situation de pénurie de main-d'œuvre. Ça a été soulevé de façon assez aiguë par les quincailliers. Cependant, les heures d'affaires, ça peut être assez asymétrique. Hein? Puis, à ce stade-ci, on laisse le choix aux propriétaires. Ils peuvent décider d'ouvrir en partie le dimanche ou fermer le dimanche. On le fait pendant la pandémie. C'était véritablement une mesure exceptionnelle. Mais là, on est revenu à un stade plus normal après la pandémie. Moi, j'aime mieux travailler avec nos mesures actives pour aider à combler la pénurie de main-d'œuvre, formation, requalification, intégration, des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap, les personnes autochtones, les personnes judiciarisées, les prestataires d'aide sociale, les travailleurs étrangers temporaires. Il y en a beaucoup de solutions. Oui. Puis il faut travailler de cette manière-là et laisser les propriétaires ou les entrepreneurs décider de leurs heures d'ouverture. Je comprends que ça peut avoir une valeur attractive à un certain moment donné. Je comprends l'importance de la vie de famille. Il faut trouver un bon équilibre. Mais en même temps, il faut comprendre aussi les personnes qui travaillent durant la semaine, qui ont besoin des samedis et des dimanches pour compléter leurs emplettes. Fait que c'est à ce stade-ci, là. Évidemment, on est attentif, on écoute, on a des échanges. Moi, je travaille beaucoup avec les partenaires du marché du travail, les patrons, les syndicats, et on va continuer de travailler en mode collaboratif, mais pour l'instant, on n'a pas l'intention de faire d'intervention législative pour limiter les heures ou pour imposer des fermetures pendant des journées précises.
Bon. Une des solutions qui avait été avancée, entre autres, pour essayer de régler la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'augmenter encore plus les seuils d'immigration. Certains parlent de peut-être même 55 000 immigrants là pour essayer d'amener de l'eau au moulin aux employeurs qui cherchent des employés puis qui n'en trouvent pas. Est-ce que c'est une solution que vous aimeriez appliquer?
C'est la multiplicité des solutions qui vont nous permettre de lutter efficacement contre la pénurie de main-d'œuvre. Faut apprendre, M. Lacroix, hein, puis l'économiste Pierre Fortin le soulignait récemment, faut apprendre à vivre avec la pénurie de main-d'œuvre. La population vieillit, il y a énormément de départs à la retraite, puis notre économie est assez vigoureuse. On était habitué au Québec à vivre avec des taux de chômage plus élevés qu'ailleurs. Là, il y a des taux de postes vacants qui sont particulièrement élevés. Fait qu'il faut être créatif, faut améliorer nos conditions de travail, notamment les salaires. Vous le mentionniez aussi, la conciliation travail-famille, les horaires de travail. Il va y avoir à peu près 1,4 million de postes vacants d'ici les 10 prochaines années. On estime du côté des économistes et des démographes qu'à peu près 20-22% de ces postes-là vont devoir être comblés par des personnes immigrantes. Donc, ça représente à peu près 32 000 personnes. Moi, je trouve que le débat sur les seuils est un peu théorique et académique. Pour l'immigration permanente, ça n'a pas constitué un frein. Au niveau de l'immigration temporaire, je suis assez d'accord. Il faut d'ailleurs, c'est ce que je fais avec ma collègue du MIFI, négocier avec Ottawa des assouplissements du programme des travailleurs étrangers temporaires pour améliorer les seuils puis permettre à certaines catégories de métiers d'emploi de bénéficier de ce programme-là, parce que ça nous aide à répondre à des besoins pressants de notre marché de l'emploi. Puis je vous dis, les pourparlers vont relativement bien, puis j'anticipe des bons résultats dans des délais intéressants.
Bon, le Parti libéral, en fait, la commission jeunesse du Parti libéral a proposé la semaine dernière la semaine de 4 jours, mais de ramener le nombre d'heures pour une semaine complète, là, de 40 à 32 heures. Puis eux pensent que, comme ça s'est fait dans d'autres pays, notamment l'Islande a essayé ça avec un projet pilote, qui semble fonctionner. Selon les résultats, en tout cas, qui ont été présentés, il n'y aurait pas de perte de productivité qui serait liée à la diminution de la semaine de travail, mais en gardant le même salaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable chez nous, à votre avis?
Bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est envisageable à ce stade-ci. Évidemment, il y a une diversité importante des milieux de travail au Québec. Je sais que des syndicats puis des employeurs négocient des semaines de 4 jours, mais 4 jours de 10 heures de travail, il peut y avoir des impacts sur la productivité. Il y a des risques accrus d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Lorsque les jeunes libéraux proposaient, c'était 4 jours de 8 heures. Mais donc, on diminue considérablement le nombre d'heures de travail des employés, c'est 20%, n'oublions pas. Et en contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça m'apparaît difficilement envisageable. Mais ceci dit, moi, je vais être attentif aux rapports puis aux conclusions des projets pilotes. Là, vous avez parlé de l'Islande ou dans d'autres pays où c'est tenté. Mais il faut le laisser au cas par cas, hein. Puis vous savez qu'en milieu syndiqué, ça fait partie des conditions de travail et ça peut être négocié, même en contexte non syndiqué. Mais le 5 jours de travail, il répond, selon moi, très bien aux préoccupations du monde patronal et de plusieurs syndicats au Québec.
Ouais. Mais est-ce que les employeurs vont pas aussi être obligés de s'adapter à une nouvelle réalité de main-d'œuvre? En ce sens que les générations plus jeunes veulent pouvoir profiter davantage de la vie, d'une certaine liberté, d'une certaine il y a comme une espèce de changement de mode de vie qui est en train de s'opérer là. Puis les jeunes ont le choix aussi, les employés ont le choix de leur employeur en ce moment parce que on est en pénurie de main d'œuvre. Donc, est-ce que les employeurs vont devoir lâcher du lousse un peu là, puis s'habituer à cette nouvelle réalité là?
Absolument, c'est extrêmement important ce que vous mentionnez. Le rapport de force n'est plus le même. En période de chômage élevé, le rapport de force favorise les employeurs. Là, on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc le pouvoir de négociation, il est beaucoup plus important du côté des travailleurs et des syndicats. Fait que faut améliorer les conditions de travail, puis ça passe par des horaires flexibles, par des nouvelles mesures de conciliation famille-travail. J'ai fait des visites d'entreprise là depuis la fin de la session parlementaire. Et il y en a qui font des aménagements pour permettre aux travailleurs de s'entraîner. Ils font des espaces beaucoup plus conviviaux pour permettre des rencontres, pour permettre de manger avec des cafétérias. Oui, là, il y a un contexte qui est favorable. Il faut que les employeurs deviennent plus attractifs et qu'ils aient leur propre plan de rétention. Puis moi, je les invite à faire. D'ailleurs, les associations patronales doivent faire beaucoup de pédagogie auprès des employeurs. C'est en étant créatif, en modifiant les façons de faire, qu'on va le mieux faire du recrutement et le mieux retenir nos employés. Puis dernier point, on a encore un défi de productivité immense au Québec. Il y a des écarts de productivité avec l'Ontario, d'autres pays membres de l'OCDE. Fait qu'il faut automatiser les tâches répétitives. On va améliorer la qualité de vie au travail. On va peut-être créer d'autres emplois de meilleure qualité.
Ouais.
Et ça, là, pour moi, là, c'est un incontournable. Puis on a des mesures, des programmes à Service Québec. Quand les entreprises prennent le temps, puis il faut le faire, rencontrer des conseillers aux entreprises, on a des subventions salariales, on a de l'accompagnement personnalisé, l'automatisation, la numérisation, la robotisation, c'est les voies de l'avenir pour accroître la productivité puis enrichir le Québec, Monsieur Lacroix.
J'ai envie de vous poser une question sur le passeport vaccinal, mais sur la vaccination en milieu de travail. Là, il y a une entreprise, un restaurant du vieux Montréal qui s'appelle Éric et Fils. Eux, à compter du 1er septembre, vont exiger une preuve vaccinale pour les clients, mais aussi pour les employés. Alors, les employés qui vont rentrer, qui vont être embauchés à ce restaurant-là, vont devoir avoir la double vaccination. Puis il y a plusieurs entreprises qui en parle de ça. On entendait Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui disait ça, là, qu'il y a des entreprises qui songent à imposer la vaccination chez leurs employés pour revenir au travail. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est légal, à votre avis? Et est-ce que ce serait souhaitable de faire ça?
Bon, là, je vais vous donner une opinion. Pour moi, la vaccination obligatoire, on ne peut pas se servir de ça pour discriminer, notamment l'embauche ou au moment d'une promotion, puis on ne peut pas dire à quelqu'un on termine ton emploi parce que tu n'as pas été vacciné. Est-ce qu'on peut l'imposer dans le cadre d'un retour au travail? Ça m'apparaît problématique. Puis il y a des enjeux légaux parce qu'il y a des droits qui sont protégés par la Charte, notamment québécoise des droits et libertés de la personne, l'intégrité physique, la vie privée. Donc, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas se faire vacciner aurait certainement de forts arguments pour aller devant les tribunaux et contester la décision de l'employeur. Donc, pour moi, d'imposer ou de dire c'est une obligation de te faire vacciner pour travailler, ça m'apparaît extrêmement contentieux. Ceci dit, il peut avoir des particularités qui permettent à un employeur, peut-être en fonction des niveaux de risque très élevés, en tenant compte de la nature des fonctions, responsabilité de la personne, mais je ne veux pas entrer dans du cas par cas. Mais si vous me demandez une opinion générale sur le droit d'un employeur d'imposer la vaccination à ses employés, je vous dis c'est certainement très contentieux et ça risque fortement d'être cassé par un tribunal.
Mais est-ce que l'État, parce que là, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont en télétravail là, depuis le début de la pandémie, puis je voyais que Sonia Lebel songe, elle, à limiter, si on veut, le nombre de personnes au travail de façon permanente. Là. Il pourrait y avoir beaucoup plus de télétravail qui va se faire dans l'avenir, même si la pandémie devait se terminer. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé de peut-être dire aux gens qui sont pas vaccinés pleinement, de dire, ben faites du télétravail, ne venez pas au bureau. Donc, tu les empêches pas de travailler, mais en même temps, tu leur dis, ne viens pas dans un milieu où tu pourrais contaminer d'autres personnes?
Oui, encore une fois, c'est une question de risque. Et ça, j'ai aussi exprimé une opinion là-dessus. Est-ce qu'un employeur pourrait dire, tu vas continuer à travailler, mais tu vas devoir le faire en télétravail parce qu'il y a un risque trop important de contamination si tu viens en présence dans le milieu régulier de travail? Ça, pour moi, ça m'apparaît déjà plus acceptable. Ceci dit, avec ma collègue Sonia Lebel, c'est sûr, on a encouragé le télétravail, puis il faut que ça continue. Le mode hybride est nettement accepté par la majorité des travailleurs, un certain nombre de jours à la maison, un certain nombre de jours sur les lieux de travail. Ça va demeurer.
Ouais,
et je pense que l'expérience a démontré à beaucoup d'employeurs que ça n'avait pas d'impact négatif sur l'efficacité et la productivité des personnes qui télétravaillaient.
Mais juste pour être clair, là, M. Boulay, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez exiger des employés de l'État pour revenir en présentiel au bureau qui soient vaccinés?
Ça peut faire l'objet de discussions. Il n'y a pas de décision de prise. C'est pour ça que ce que je vous exprime, c'est une opinion, pas une position. À ce stade-ci, il n'y a pas de décision prise à cet égard-là.
Mais ça se discute.
Oui, c'est toujours en discussion. Puis pour le retour au travail qui va s'amorcer au début septembre, je l'ai souvent répété, il faut que les employeurs élaborent des protocoles de retour au travail. C'est le temps de planifier le retour des personnes dans les lieux de travail, que ce soit en mode hybride ou autre. Il faut que tout le monde, tant les télétravailleurs que les employeurs, sachent à quoi en tenir, puis que tout le monde comprenne bien les modalités de retour au travail qui va s'amorcer au début de l'automne.
Monsieur Boulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Monsieur Lacroix. Au plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.